Bonjour et bienvenue sur Onde Baroque, l'émission qui vous donne tous les détails sur les votre événement de musique classique préféré, le Festival de Saintes. Depuis vendredi, les blogueurs ont joué des coudes pour tout vous raconter sur ces premiers jours du 47e Festival de l'Abbaye. Ce soir, nous recevons sur notre plateau Inès, salut. Lucas, bonjour. Et Mia. Cette édition nous a déjà offert de grands moments de frisson, comme lors du concert d'ouverture de l'ensemble Jupiter, emmené par le jeune Thomas Dunford, avec un Vivaldi plus pétillant que jamais. Ou encore l'étonnant concert vocal du collectif international Grain de la Voix. Hier après-midi, la pianiste Claire-Marie Leguet a donné un récital sur Bach, Debussy ou encore du Tilleux. Inès était présente et elle vous raconte maintenant ce concert haut en couleur.
Hier, je suis donc allée au concert de Claire-Marie Leguet, pardon. Son programme haut en couleur allie compositeur dit classique avec un répertoire beaucoup plus contemporain. Entre Thierry Esquèche et Henri Dutilleux, les compositeurs modernes étaient donc mis à l'honneur le temps d'un concert. Douche de lumière sur le piano, absence de bruit, longue inspiration, le concert débute sur le chapeau de roue avec la première partita de Bach. L'interprétation est vraiment bien réussie. À chaque mélodie, son lot d'émotions. Elle développe ainsi une grande intensité, comme si chaque note était la dernière. Le son de chaque note est appuyé, pesé et résonne dans l'abbatiale, se présente aux oreilles du spectateur comme une suite d'images sonores. Dans son voyage au pays de Bach, elle réussit à emporter le spectateur, entre spleen, mélancolie et même angoisse. Le concert est conçu comme un conte musical, récité, joué et presque chanté, voire dansé, et bercé par les puissantes sonorités du piano de Claire-Marie Leguet. On a même parfois l'impression que quelque chose nous poursuit. Les compositeurs s'enchaînent, le programme se poursuit, la mer se déchaîne. Cependant, si je devais mettre un petit bémol à son jeu, je dirais qu'elle s'est contentée de suivre la partition, avec peu de fantaisie et le piano a une sonorité mécanique, et manquait un peu de rondeur. Mais bon. Dommage aussi que la bassoile n'ait pas été pleine, car la pianiste le mérite. Vous pourrez la retrouver cet été le 21 août à La Fontaine d'Ozillac, en Charente-Maritime, en sonate avec Francis Salk, et le 25 août à Chagny, en Saône-et-Loire, pour un récital Bach, Dutilleux et Esquèche.
Ça va, tu n'as pas dû trop courir pour être à l'heure au coup d'envoi?
Oui, j'ai même failli louper la Marseillaise.
Parce que bien sûr, même les faire une musique classique n'ont pas pu éviter notre grande actu nationale.
Anem, los bis, anem, anem. Anem, los bis, anem, los bis, anem, los bis, anem, anem.
La finale de la Coupe du Monde de foot qui débutait hier à 17h. C'est pas évident, mais nombre de musiciens sont aussi de grands fans de sport. Alors, pour ne gâcher la fête à personne, l'Abbaye a installé un écran sous la voile. La finale France-Croatie a pourtant eu du mal à commencer dans l'Abbaye. À quelques instants du coup d'envoi, le Wi-Fi a décidé de faire des siennes. On a senti la crispation dans le public. Allons-nous pouvoir voir ce foutu match tant attendu ?
L'étendard sanglante est levé. Entendez-vous, ma mélodie dans nos...
Beaucoup, après une Marseillaise pas très rassurée, ont décidé de prendre la fuite et ont couru jusqu'à l'écran le plus proche.
Jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes.
Le seul qui restait confiant était un enfant de 4 ans, torse nu, perché sur une table.
Allez les bleus, allez les bleus, allez les bleus, allez les bleus.
Mais, au bout de 10 minutes, tout est rentré dans l'ordre. Le premier but de Griezmann, sur pénalty, a été retransmis en direct, sans aucune anicroche. Les chanteurs invités par le festival se sont même pris au jeu et nous ont offert une version lyrique de nos chants de supporters.
On est champions, on est les champions.
Cette Coupe du Monde ne pouvait mieux se terminer. Victoire 4-2, et même le public de l'Abbaye, pourtant peu expressif, s'est donné à cœur joie lorsqu'a retenti le coup final. Et comme comme musique et foot deviennent compatibles lors de grands événements comme la Coupe du Monde, Lucas est allé voir les spectateurs du Festival de Saintes pour leur demander ce qu'ils pensaient des tubes écoutés par les joueurs de l'équipe de France.
Effectivement, Cécile, je suis parti à la rencontre des festivaliers pour leur faire écouter la playlist des joueurs de l'équipe de France avant le match. Nous avons enregistré leurs réactions et leur avis à propos de ces chansons.
On pourrait te liquider pour de grosses sommes.
Moi je sais pas.
Ça m'agresse pas particulièrement.
C'est ça qui m'agresse, non?
Non, bon,
non, c'est pas déplaisant.
C'est pas déplaisant, mais j'ai rien.
C'est pas déplaisant, attends, c'est pas ça. Je sais pas, j'ai l'impression, c'est un peu l'impression d'un rythme brésilien ou comme ça.
Que la musique de jeunes, c'est pas tellement mon truc. L'harmonie, le bruit, l'excitation, c'est vraiment pas mon truc. Avec mes appareils, j'ai pas compris les paroles.
Voilà,
Ben c'est entraînant toujours, hein. Puis ça leur ressemble. Hein.
Ah, c'est une musique d'ensemble.
Mais oui, mais ça leur ressemble. Hein. Ils ont 20 ans, qu'est-ce que vous voulez, c'est ce qu'on écoute à 20 ans. Hein.
Ouais, c'est
génial. Ça va leur donner de l'énergie pour demain.
Ah bah oui, on espère.
Oui, très bien, très bien.
Je donne rap, un petit geste,
ils sont jeunes. Alors s'il y en a un qui écoute Beethoven, les autres vont lui tomber dessus. Ben, c'est normal, hein. C'est, ça ne veut pas dire qu'ils n'apprécient pas la musique classique ou le jazz, attention. Mais quand on est tous ensemble, quand on fait partie d'un groupe, obligatoirement, on doit suivre la majorité, ouais. Hein, voilà. Mais non, ça leur donne, moi je trouve que ça leur va très bien, ce genre de musique. Mais bien sûr, il faut. Et puis nous, il y a des morceaux aussi qu'on aime bien, qu'on entend. On dit tiens, mais ça c'est une musique actuelle et malgré notre âge, on aime bien, on reste ouvert à tous les styles de musique.
Ça vous arrive d'en écouter
Ah oui.
Oui, on aime bien. Voilà.
C'est une spécialiste. Comment il s'appelle?
Maître Gims. Oh bah oui, mais ça c'est mon amour, Maître Gims.
Eh bien, ça nous change de Bach et Wagner. Et du coup, vous les blogueurs, c'est quoi vos tubes du moment? Moi, en ce moment, je suis très Rachida, Camarade. C'est un peu mon son préféré.
Écoute-moi, camarade, laisse tomber cette fille, tu m'entends? Elle va te rendre malade et tu vas souffrir longtemps. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Mais elle ne t'a jamais aimé, camarade.
Et toi, Lucas, c'est quoi?
Alors moi, j'ai choisi un extrait de la chanteuse britannique Georgia Smith qui s'intitule « On My Mind ». Donc cette chanteuse britannique représente un petit peu le renouveau du R&B et de la soul anglaise depuis ces trois dernières années. C'est pour ça que je l'ai choisi.
So I ask myself, do I let you?
Et toi, Mia, il y a un truc qui tourne en boucle en ce moment ?
Alors moi, je vais pas vous mentir, je suis plus rap. Donc pour vous, aujourd'hui, j'ai choisi Eddie De Preto.
Souvent, je mens pour aussi papillonner, me faire croire que les passants pourraient être tous intéressants. Je m'évente d'admiration et m'extase à l'addiction d'une phrase ou d'un jeté de sourire vite interprété. Souvent, je mens pour faire croire à mon dedans qu'il vibre démesurément et qu'il peut même plaire à plein temps avec juste un ou deux baisers que je chope à l'envolée. Je m'imagine des volcans qui inonderaient mes champs de plaies. Souvent, je mens, je m'excite pour tous les gens qui lancent des pannes à la...
Et toi, Inès, alors ?
D'avoir rien à voir avec le rap et tout ça, moi c'est plutôt très classique avec Queen, Under Pressure. On peut se demander comment un morceau devient un tube. Élément de réponse dans le reportage réalisé par Kira et moi-même.
Je m'appelle Angelina et je suis violoniste et je suis ici avec l'ensemble Liangeli Genève.
Alors je suis Michael Chanu, je suis contrebassiste de l'ensemble Liangeli Genève.
Alors je m'appelle Pierre-Guy Le Gall-White, je suis là pour chanter avec Vox Luminis.
Et donc, première question, comment une partition devient-elle un tube ?
Le roulant, non ?
Beaucoup de rythme, les mélodies qui restent dans la tête du génie. Quoi.
La musique plaît aux musiciens déjà pour qu'ils puissent l'interpréter de manière convaincante.
Well, I would say that a lot of Americans can get an introduction to...
Je dirais que beaucoup d'Américains découvrent la musique classique par les animations comme Bugs Bunny qui sont remplies de grands classiques. Et s'ils les entendent par la suite quand ils sont plus vieux dans des films ou des publicités, ils pourront donc faire le lien.
Et
comment la pub peut-elle revitaliser, peut-elle remettre au goût du jour une partition ? La pub est quelque chose de très puissant, surtout à nos jours. C'est surtout de la répétition. Les grands classiques sont souvent réutilisés.
Bon, moi, je pense que c'est peut-être pas la meilleure formule, le meilleur moyen pour faire connaître la musique classique, parce que ça associe automatiquement à un produit, et ça, c'est quand même pas très sain, je trouve, moi, personnellement. Après, évidemment, parce qu'après, les gens associent la musique plus à la marque qu'à la musique. Ils disent « Ah, bah ça, c'est la musique de Mercedes. Ah, ça, c'est la musique de... » Voilà. Ils ne vont pas faire la recherche forcément d'aller ce que c'est, d'où ça vient.
Et est-ce que ces airs qui nous plaisent parce qu'ils sont utilisés dans les pubs ou est-ce qu'ils sont utilisés par les publicitaires parce que justement, ils nous plaisent ?
Mais je pense quand même la majorité du public font connaissance avec la musique par rapport à la pub, par rapport au choix de la pub, en fait.
Ça, c'est possible. Que la pub se sert des tubes, mais aussi qu'une pub peut faire qu'une chanson devienne un tube.
On that level, there are endless
il y a des millions d'exemples de pièces connues qui sont utilisées pour renforcer les scènes.
To make scenes more memorable.
Et dernière question, comment les musiques de films permettent-elles justement à ces morceaux de perdurer, de s'inscrire dans nos mémoires collectives ? Si le film est très bien et la bande-annonce aussi, l'un va avec l'autre, donc l'un va pousser l'autre de devenir encore plus populaire.
I'm catching up on my Star Wars.
En ce moment, je suis en train de regarder la série Star Wars et c'est tout simplement un opéra en espace. Tout le monde connaît les premières notes.
You hear the first tones of the yum bam 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 bam. You know exactly
tout le monde reconnaît et peut différencier les différents films dans la série car ils ont chacun leur thème musical.
Empire Strikes Back and each one has its own its own sort of musical theme.
Alors les musiques de films, alors il y a des compositeurs parce que c'est des compositeurs absolument incroyables, il y a des compositeurs géniaux en musique de films qui s'inspirent beaucoup de musique classique, c'est sûr. Par exemple John Williams, des gens comme ça qui s'inspirent beaucoup de Wagner, aussi de musique française, de Debussy, Ravel, Mahler et tout ça. Ils s'inspirent beaucoup de ça.
« Et du coup, pour essayer de comprendre vraiment comment est-ce qu'on arrive à créer des choses qui marchent, nous avons invité sur notre plateau le compositeur Philippe Scheller qui a fait une commande pour le Festival de Sainte qui sera joué ce soir.
Nous avons le plaisir d'accueillir le compositeur français Philippe Scheller qui a notamment collaboré avec l'IRCAM, l'Orchestre Philharmonique de Radio France et son frère Philippe Scheller qui est scénariste.
Pierre Scheller,
qui est scénariste et réalisateur.
De l'exercice de l'État,
Versailles, etc. Il a composé plus de 70 œuvres jouées dans le monde entier. Il y a à la fois de la musique de chambre pour solo, duo, trio, quatuor, des œuvres pour ensemble orchestral, de la musique symphonique, électronique et vocale.
Et de la musique de film.
Et de la musique de film, on y reviendra. Bonjour Philippe Scheller.
Bonjour, je suis très enchanté d'être parmi vous dans un lieu... magnifique, dans une équipe magnifique.
Merci beaucoup. Alors on va revenir avec des questions. On va revenir sur le reportage d'Inès. Pour vous, comment une musique peut-elle devenir un tube ?
Le marché. Vous avez tous sur la table un outil qui vous permet d'accéder à la vitesse lumière à n'importe quelle information. Celui qui veut vous conditionner, vous donner une information, s'il a la puissance du marché, cette musique vous sera dans votre cerveau. Il n'avait pas ça du temps de Mozart et de Beethoven, de classique, ni au temps romantique. Ça a commencé au XXe siècle. Les supports qui permettaient de diffuser la musique ont complètement changé la notion de musique. Mais la musique reste toujours la même. On vient bien l'entendre avec cette formidable dame qui parlait de Beethoven jusqu'au rap, pour montrer que la musique donne tout de suite quelque chose qui vous accroche d'une façon ou d'une autre, une répulsion, une attraction. Mais les choses ont changé dans la mesure où on est constamment baigné de musique partout, dans les ascenseurs, dans les parkings, dans les restaurants. Et on a peut-être oublié cette musique qu'on entend dans ce lieu magnifique, et la musique du vent, par exemple. Voilà, donc la musique, il faut aussi la chercher autre part que dans des outils qui nous permettent de la définir comme musique. Voilà, je dirais ça pour commencer.
Et par rapport à la musique donc, que vous composez, vous êtes au Festival de Sainte pour la première fois. Et pour quelle raison avez-vous décidé de créer une œuvre pour clavecin et percussion ? Est-ce que ça a été une demande du festival ou c'est votre choix ?
Par affinité élective, par amitié. Vous savez, la musique, c'est comme l'amour. C'est Picasso qui disait ça. L'art et l'amour, c'est la même chose. Donc, c'est que des attractions ou des répulsions, goût et dégoût. Ça, c'est très important de comprendre ça. Parce qu'on a tendance à mettre le goût dans des cases alors que, par exemple, pour ce qui est de la nourriture, aujourd'hui, tous les goûts sont transversaux, sont dans un kaléidoscope de sensations. Donc, cette affinité élective avec un musicien qui s'appelle Florent Jodelet, qui est percussionniste à l'Orchestre National de France, on s'est tout de suite lié d'amitié à un concert, et puis on a pris notre temps, et il m'a dit, tiens, après une dizaine d'années, c'est le moment enfin de travailler ensemble, de partager, de construire ensemble. La musique, c'est construire, c'est ensemble, c'est jamais seul. Et qu'est-ce que tu penserais d'une œuvre pour Maud Graton ? Alors là, j'ai dit oui tout de suite. Maud Graton, vous venez au concert ce soir. C'est une claveciniste qui joue aussi de l'orgue et du pianoforte absolument merveilleuse sur des instruments qui sont peut-être, on pourra dire anciens, mais son approche de la musique est vraiment vivante, passionnante. Et donc j'ai tout de suite dit oui, et puis après on a organisé ça d'une façon très pratique pour faire une œuvre donc pour percussion et clavecin. Et vous utilisiez le mot décider. Alors oui, décider, c'est au moment où on écrit, mais c'est avant tout par une décision beaucoup plus irrationnelle, beaucoup plus intuitive, et comme l'est la décision, on ne veut pas tomber amoureux, ou on ne veut pas imaginer, ou il y a une expression plus intéressante qui est « n'est pas fou qui veut ». Donc voilà, moi je ne suis pas fou par volonté, parce qu'il faut être fou pour être compositeur, mais c'est toute cette histoire d'amitié qui arrive à un concert ce soir.
Donc on va reparler de votre métier de compositeur. Qu'est-ce qui vous a donné envie de composer et à quel âge vous avez commencé vraiment à composer?
Je ne fais pas de psychanalyse, Dieu soit loué. Je ne sais pas. C'est comme ça. C'est un désir. C'est un rêve qui s'est réalisé peu à peu. Et comme je sais qu'il y a deux vies, la deuxième commence là où on a compris qu'il n'y en a qu'une. Un grand proverbe chinois, mais je sais que... Comment dire? Soyons poètes, essayons. Je ne sais pas, je sais que... On n'a pas de temps à perdre pour être à la hauteur de la grandeur de ce qu'est la vie, de son miracle, de ses incertitudes. Et donc, il n'y avait pas d'autre solution pour me sauver d'être à la hauteur de ce que je ressens de l'existence, pour me plonger dans cette folie, être compositeur dans la grande tradition, sans rupture. Hein. De Beethoven à Kanye West, pour moi, il n'y a aucune rupture. Hein. Il n'y a pas de musique contemporaine. Donc je me suis lancé là-dedans il y a maintenant 50 ans, j'ai commencé à 9-10 ans, j'en ai 60, et je continue mon chemin.
D'accord, oui, vous avez commencé très petit.
Très jeune, enfin, j'étais oui, attiré, est-ce que c'est génétique, est-ce que c'est, si on est marxiste ou platonicien, j'ai toujours été attiré par le son. Ce bruit des feuilles, là, vraiment m'enchante, j'ai fait une œuvre là-dessus qui s'appelle « Feuillage », c'est une attirance, c'est sans doute génétique, je crois, ou peu importe les causes, qui fait que le son m'a toujours apporté de la joie, de l'émotion, de l'irrationnel surtout, de la magie, quelque chose qui n'est pas cadré, numérisé, standardisé, qui d'une part, et ma nature profonde est que je n'ai toujours été intéressé que par l'inconnu. C'est pour ça que ça me fait rire quand on classe les musiques, parce que dès que moi je connais une chose, elle m'ennuie.
Vous avez besoin de découvrir...
J'ai besoin d'explorer ce qu'on appelle l'inconnu, non pas comme un... C'est pas intellectuel, hein. C'est... Je vais pas faire non plus une expérience d'aller manger des piments crus, mais c'est une forme de risque pour être dans la grandeur de ce qu'on vit. Après, c'est un risque, hein, et qui ne risque rien à rien, c'est dangereux, hein. C'est dangereux, c'est irréversible. De Artaud à Van Gogh, il y a des chemins d'artistes qui sont exemplaires, mais qui sont des tragédies. Donc ça m'a plu, parce que c'est ma nature. J'aime le risque, la vitesse. C'est comme ça. Il y a des gens, j'aime pas l'histoire. Je suis passionné par l'histoire de la musique, mais pour la projeter dans l'inconnu. Oui, et une phrase importante que j'aimerais dire ici à tous, à tout le monde, à l'antenne, à tous les gens qui sont là, c'est que l'invention n'a pas d'âge. Et c'est pour ça qu'on écoute encore de la musique classique. Ça, c'est très important.
Donc voilà, c'est quelque
un peu
chose.
Sérieux, excusez-moi, mais.
Et est-ce que vous avez des inspirations particulières ou c'est très naturel?
Oh, bah, ça dépend de ce qu'il va falloir partager, écrire. Hein. C'est l'écriture, c'est la. C'est par phase. C'est lié aux saisons, d'ailleurs. Je sais qu'en hiver, c'est pas la même musique comme le faisait Vivaldi qu'en été. Mais tout m'inspire et je suis aussi peintre et toutes les voilà le vent prend la parole là dans le micro et en fait c'est je sais pas je m'auto-analyse pas trop parce que l'ego est une chose assez dangereuse.
Mais du coup quand vous dites qu'il y a un désir en fait tout à l'heure vous avez dit que c'était un désir d'être compositeur, est-ce que c'est pas plutôt une envie ou même une pulsion?
C'est pareil, non? Le désir c'est un terme générique, l'envie c'est un terme plutôt psychologique. Une pulsion, on va chercher chez Freud. On peut parler de Freud, mais ça va mal tourner, là.
Dans les pulsions primitives?
Alors ça, c'est intéressant. Ça, c'est Jung. C'est que la musique, voyez-vous, on n'a pas besoin de sous-titres au concert. C'est que l'expérience d'écouter est précisément une expérience initiale, alphabétique. Ce sont des sons. Ça n'a pas de sens. Le sens qui vous fait comprendre ou sentir ou vous émouvoir... Avec quelconque forme de musique, parce qu'il faudrait savoir quelle est la frontière entre l'espace sonore et l'espace musical. Hein ? C'est très important, ça. Donc, il faut écouter ce qui vous fait du bien. Et ça, c'est en général des choses assez pures. Ce sont des sons. Et à ce moment-là, vous dites « Ah, c'est musical ».
Si je parlais comme ça, j'aurais une voix qui est moins musicale.
Parce que je placerais moins bien ma voix dans mon corps. Donc c'est une question de résonance C'est une expérience sensible. C'est, vous êtes en relation avec un monde sensible et tout à coup, ça donne du sens. Mais c'est votre façon d'écouter qui fait la musique. La musique, elle n'existe que si elle est écoutée. Donc c'est archaïque, oui.
Et pour revenir sur votre travail avec votre frère Pierre Scholler, pourquoi vous avez décidé de collaborer sur tous ces projets?
Ça, c'est une question importante parce que c'est mon frère. On est frères de sang, paraît-il. Lui a décidé de se lancer dans l'écriture. Hein. Il est scénariste. Il a écrit pendant 15-20 ans avant de faire ses premiers films. Et c'est un peu comme mon parcours, mon chemin. Écrire est une chose quand même très, très étrange par rapport à l'expérience de la musique ou l'expérience de la scène en théâtre ou de la danse ou tout ce qui est sensible. Donc Pierre, il a écrit pendant 15 ans et puis moi j'ai démarré beaucoup plus vite dans mon métier, je dirais, dans ma passion. Et puis il y a une dizaine d'années, il a fait un premier film qui s'appelle Zéro défaut, qui est une histoire d'amour dans une... Vous me dites si je suis trop long, mon ami. Hein? Zéro défaut, une superbe histoire d'amour dans une usine. Et zéro défaut étant évidemment le principe de l'industrie, où il n'y a pas une seule note de musique. Donc il serait plutôt proche de Bresson, hein, si vous connaissez Robert Bresson, ou proche du cinéma muet d'une certaine façon. Donc il faisait la musique avec ses yeux. Vous savez, récemment, donc, je travaillais avec lui et le chef opérateur qui s'appelle Julien Hirsch m'a dit « Non, je ne veux pas voir les images avec la musique qui est en train de composer parce que un mauvais réalisateur va chercher la musique pour organiser le rythme et l'harmonie et le développement de son film. » Non pas que la musique de film comme celle de John Williams soit inutile ou superfétatoire, mais il avait cette capacité par les yeux de créer ce que moi je faisais avec les oreilles d'une certaine façon. Et il m'a appelé pour faire Versailles avec Guillaume Depardieu. Et puis on a commencé à travailler ensemble. Et puis ensuite l'exercice de l'État, où là ça devenait plus sérieux, direction d'orchestre, long métrage, superbe film assez complexe. Puis Les Anonymes, un film qui était sur l'affaire Colonna en Corse, sur l'assassinat du préfet Erignac. Donc des sujets aussi assez loin de mes préoccupations artistiques, puisque moi ne m'intéresse que le merveilleux, la magie, la beauté. Et donc très réaliste, hein, cinéma réaliste, mais en même temps assez enchantant, enchanteresque. Et puis est arrivé le film que vous verrez le 26 septembre, qui s'appelle Un peuple et son roi, qui vient d'être réalisé, dont le trailer est visible sur... la bande-annonce est visible sur Internet, où là c'est devenu très très sérieux, avec un casting extraordinaire, vraiment un grand film sur le début de la Révolution française jusqu'à la mort, la décapitation de Louis XVI, avec des acteurs prestigieux. Donc là, la musique est devenue dans un champ beaucoup plus populaire aussi, hein, parce que la musique que je fais n'est pas encore populaire. Elle est d'une autre façon. Donc ça s'est construit peu à peu. Un journaliste de France Musique lui a demandé « Mais est-ce que vous allez toujours travailler ensemble avec votre frère ?» Et Pierre n'a pas su quoi répondre, et moi non plus. Il se fait qu'on... C'est pas toujours facile de travailler avec son frère, mais voilà, ça s'est fait. Est-ce que c'est un destin? J'en sais rien, mais c'est merveilleux parce que les frères Lumière ont fait comme ça. Et c'est la première fois dans l'histoire du cinéma, qui a à peine un siècle, qu'il y a vraiment un compositeur qui fait de la musique les yeux fermés, je dirais, et un réalisateur qui fait des films, non pas les oreilles fermées, mais du cinéma. Et entre-temps, moi j'ai travaillé avec Abel Gance, hein, ça c'est très très important, j'ai fait 3 films muets. J'accuse d'Abel Gance en ciné-concert, 3 heures de musique, et donc voilà, les choses se sont faites d'une façon harmonieuse et sans...
Pourquoi est-ce que votre musique elle est pas populaire?
Vous savez, sur les paddocks de Formule 1, ils sont en train de définir tout le profil des rétroviseurs qui seront sur les Twingo en 2019. Donc c'est pour me protéger que je dis ça. Parce qu'on vit une époque où la musique est assez sacrifiée. Pierre Boulez me disait, vous faites une exposition avec Picasso, vous avez 1 million de personnes. Vous faites une exposition avec Stravinsky, vous avez 10 000 personnes. La musique est une chose difficile à le langage, l'oreille est une chose difficile à transformer dans les habitudes que l'on a. C'est plus difficile d'apprendre une langue étrangère que d'aller voir une exposition d'art abstrait.
Mais pourtant, quand on regarde au niveau des concerts internationaux, je sais pas, si on prend les Rolling Stones qui font des concerts absolument énormes, ouais, on a le même nombre de personnes qui vont aller voir les Rolling Stones plutôt que des gens qui vont aller voir...
C'est les pires musiciens du monde. Prenez plutôt Led Zeppelin ou King Crimson ou les Beatles. Dès le départ, les Rolling Stones, regardez d'où ils viennent. Ils viennent du blues profond, de l'héritage de l'exil africain sur les champs de coton, qui sont bien plus profonds et puissants. Keith Richards, demandez-lui de jouer un blues, c'est nul par rapport aux grands classiques du blues. Donc dès le départ, c'était un marché génial pour faire ce qu'ils sont. Et c'est pas une question de goût, c'est pas la quantité qui va me prouver que c'est de la musique. Alors que j'aime beaucoup Lady Gaga, par exemple, qui est beaucoup plus audacieuse. Mais après, c'est toute la question, la preuve par le chiffre, c'est pas une preuve. On verra dans 50 ans. C'est tout. Moi, j'ai fait un pari à long terme de m'inscrire dans une tradition qui est bien antérieure au Rolling Stone. C'est tout. C'est une folie. Dans un marché où le long terme, c'est 5 ans, moi, mon projet, c'était 40 ans, 50 ans. Et ça ne m'intéresse pas à la postérité. C'est beaucoup plus harmonieux avec l'histoire de la musique. Donc, quand je dis qu'elle n'est pas populaire, c'est pas vrai, puisqu'on est là autour de la table et on est diffusé par les ondes. C'est que ça va prendre beaucoup plus de temps. Et c'est pas mon problème. Moi, je fais au mieux de ce que j'éprouve de la beauté de la musique. Mais franchement, entre la messe en si de Bach ou l'ouverture ou une superbe chanson de Amy Winehouse, par exemple, ou même de Adèle, la première Adèle, ou de Léo Ferré, ou dans toute la chanson française, vous avez des choses absolument bouleversantes. Je place ça dans mon goût personnel. Et là, on peut dire oui, j'aime pas, il n'y a pas de vérité. Bien plus haut que les Rolling Stones. J'aimais bien les Rolling Stones au début, quand il y avait Brian Jones. C'était beaucoup plus inventif. C'était plus frais. Après, c'est devenu une affaire de commerce international.
Et juste, dernière question, Philippe Scholler.
Je suis classé là, ça y est.
vous avez été nommé aux Victoires de la Musique et au César. Qu'est-ce que vous en pensez de ces cérémonies? Est-ce que vous avez une préférence si un jour vous deviez remporter un trophée?
Je crois que je ferais comme Bob Dylan, j'irais pas à mon prix Nobel. Non pas pour faire l'intéressant, mais comme ça ferait plus de publicité que j'y vais, que si j'y aille. Et les gens iront écouter la musique avant de me regarder.
Merci beaucoup Philippe Scholler.
Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Cette première émission 2018 d'Ondes Baroques est presque finie. Il nous reste juste le temps de vous faire part de nos coups de cœur pour les prochains jours. À ne pas manquer, demain à 19h30, Vanessa Wagner sera avec l'Orchestre des Champs-Élysées pour nous jouer du Liszt et du Verdi. Mercredi, le spécialiste de Philippe Glass, Bruce Brubaker, jouera à l'Abbatiale. Et bien sûr, ce soir à 22h, la création pour clavecin et percussion de notre invité, Monsieur Scholler, à écouter au Galia Théâtre. Merci à vous, Inès, Lucas et Mia, de m'avoir accompagné tout au long de cette émission. Et encore un grand merci à Monsieur Philippe Scholler d'être passé nous voir sous la toile.
C'est moi qui vous remercie infiniment dans ce lieu venteux magnifique. Je voudrais simplement rajouter que vous verrez ce soir, venez, parce que vous verrez que Couperin est bien plus moderne que ce qu'on appelle la musique contemporaine.
Au revoir et à demain.